image sur rts.ch.
Vacarme. La Suisse est un pays indépendant et neutre. C'est un pays souverain. Le bon échelon, c'est la Suisse. J'estime que nous sommes assez grands en tant que Suisse pour gérer nous-mêmes le problème de la législation qui nous concerne.
Vacarme. Peut-on se passer de la Cour européenne des droits de l'homme ?
Véronique Marty, Marc Hughes.
Bonjour à tous et à chacune. En mars 2015, l'UDC lança l'initiative « Le droit suisse au lieu de juges étrangers ». Alors qu'il est, le parti de Christophe Blocher a récolté le nombre de signatures nécessaires. Si l'initiative était validée et si elle recevait l'assentiment du peuple, alors ça permettrait à la Suisse, en cas de besoin, de dénoncer des traités internationaux dont elle est signataire. Premier traité visé, la Convention européenne des droits de l'homme, dont la Cour européenne est la gardienne. Cette conception d'une justice pensée dans un cadre strictement national est jugée dangereuse par de nombreux hommes politiques et défenseurs des droits de l'homme. Un collectif s'est d'ailleurs constitué pour contrer l'initiative de l'UDC. Un collectif baptisé Dialogue CEDH qui regroupe plusieurs dizaines d'ONG et des centaines de citoyens. Parmi eux, des étudiants genevois que l'on va suivre dans ce reportage. Ce jour-là, ils font signer un appel intitulé « Assumez vos responsabilités pour nos droits humains ». Et puis, dans cette même université de Genève, on va rencontrer le professeur honoraire de droit civil Jean-François Perrin. Lui, au contraire, il considère que l'initiative de l'UDC est une formidable occasion de défendre la souveraineté du droit suisse et son autonomie vis-à-vis de l'étranger. Voici l'UDC contre Strasbourg, un reportage de Christophe Canu, réalisé par Rodolphe Beauchaud.
Bonjour. Vous connaissez la CEDH ?
De nom.
La Convention européenne des droits de l'homme, la CEDH ?
Alors,
au cas où, un petit flyer d'information, surtout en vue des initiatives imminentes.
Je vais regarder.
Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaissez la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH ?
Oui.
La Cour EDH. Alors, est-ce que vous connaissez peut-être l'importance de la CEDH pour la Suisse ?
Je n'ai jamais entendu parler, en fait.
Alors ici, une petite brochure qui va informer, en fait, quelle est l'importance de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Cour européenne des droits de l'homme, et surtout en vue des initiatives imminentes qui auront lieu tout bientôt et également en 2017.
C'est-à-dire, vous comptez promouvoir quoi concrètement ?
Alors concrètement, là, c'est pour que les droits de l'homme, en fait, continuent d'être promus en Suisse et qu'ils continuent, en fait, d'avoir une sorte de base fondamentale en Suisse, une sorte de garde-fou, contrairement, en fait, à ce que demandent les initiatives de l'UDC qui veut que le droit constitutionnel suisse soit primordial.
J'arrive à me donner un exemple qu'en Suisse, on n'applique pas des règles.
Concrètement, il y a eu plusieurs cas, en fait, des arrêts que la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, a rendu. Par exemple, le cas d'une mère qui était internée, en fait, parce qu'elle était enceinte à 17 ans. Et ça, c'était, en fait, dans les années 70 et 80, où, du coup, étant donné qu'en Suisse, c'était interdit d'être enceinte lorsqu'on n'était pas marié et lorsqu'on était mineur, elle a été internée. Et là, justement, grâce à la Cour européenne des droits de l'homme, cette personne a pu retrouver sa fille et sortir de prison.
J'ai pas entendu parler, en fait.
Je pense que c'est particulièrement intéressant de savoir que dans les années 1970, les droits de vote n'étaient pas octroyés aux femmes en Suisse, et notamment le fait que la Suisse veuille ratifier la CEDH. Une des clauses était que la Suisse doive octroyer le droit de vote aux femmes, et je pense que ça a été un des push pour que la Suisse donne le droit de vote aux femmes, heureusement.
Je vais comprendre, parce que là, avec la Convention européenne, tu comptes appliquer quelles règles qui favorisent le droit de l'homme en Suisse, en fait ? Parce que, je trouve que j'ai pas entendu de grands scandales en Suisse, c'est ça le problème, parce que c'est vachement stable, la Suisse.
Non, alors, clairement, la Suisse est justement un des États qui garantit de manière très forte les droits de l'homme. Voilà. Et il faut que ça continue, okay, justement, puisqu'il n'y a que 1,6% des cas qui sont jugés, ou la Suisse est jugée concrètement, guillemets, négativement. D'accord. Donc il y a des petits efforts à faire, mais par rapport aux autres États, la Suisse est vraiment un modèle. Et c'est pour ça qu'on souhaite que ça continue. Et pour ça, il y a certains droits fondamentaux qui devraient et qui doivent être protégés.
Vous savez où ça se trouve, la Cour européenne des droits de l'homme ?
Non, mais je pense vers l'ONU, j'imagine, je sais pas. Enfin, vers la place des nations.
Alors, la Cour européenne des droits de l'homme se trouve à Strasbourg.
Ok, d'accord.
Vous appelez comment, vous ?
Stéphanie Carnero.
Mais c'est bien que je vous ai rencontré, comme ça, ça me met un peu plus au clair, quoi. Voilà.
La Cour européenne des droits de l'homme,
comment dire, bah, c'est impliqué dans diverses affaires judiciaires pour régler les droits de l'homme dans l'Europe. Par exemple, je sais qu'il y a eu polémique pour savoir, par exemple, si les nouveaux pays veulent entrer dans l'Europe, ils doivent respecter certaines normes de droit pour pouvoir y entrer. Et ça pose débat pour plusieurs pays, par exemple.
Lesquels ?
Là, je pense à la Turquie, qui veut bientôt entrer, mais qui... Il y a certains problèmes pour savoir si elle peut rentrer ou pas.
Est-ce que la Turquie a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme ?
Alors, je crois pas. Oui ? Ah, c'est le cas.
Ouais.
On fait beaucoup d'amalgames et on confond souvent avec l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, les conseils, enfin, les différents termes. Et je pense que là, c'est notamment le cas puisque la Turquie souhaitait ou souhaiterait joindre l'Union européenne, et ce qui n'a rien à voir, en fait, avec la Cour européenne des droits de l'homme et la Convention européenne des droits de l'homme.
Vous-même, vous avez confondu ?
Bah oui, parce que moi-même, j'étais là genre « Ah, est-ce que la Turquie fait partie de la... Enfin, a ratifié la CEDH et tout ça ?» Puis du coup, durant une tour, je savais pour l'Union européenne, je sais très bien les différences et tout ça, mais voilà.
Vous savez la différence avec l'Union européenne ?
Enfin, j'avais un peu pas trop d'idées, ouais, de différence entre...
Je l'avais appris, mais je le sais plus.
Oui, moi, c'est un peu pareil.
Bah, s'il y a un crime de guerre ou quoi que ce soit, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui va donner un jugement, en fait. Alors que l'Union européenne, elle n'a pas énormément de pouvoir à ce niveau-là.
Je me souviens avoir appris les différences entre le Conseil de l'Europe, la Convention européenne des droits de l'homme, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. À s'y retrouver, qui fait quoi, qui a de l'autorité sur qui, c'est assez compliqué.
Vous savez ce qu'on y trouve dans cette Convention européenne des droits de l'homme ?
Absolument aucune idée.
Je ne sais pas spécialement, non, je ne connais pas trop.
Vous avez l'impression que ça sert à quelque chose ?
Oui, si, ça sert à quelque chose. Si ça servait vraiment à rien, ça n'existerait pas. Il y a forcément une utilité. Mais après, c'est vrai que, bah, comme il a dit, on a du mal à s'y retrouver, vu qu'il y a différentes conventions avec le mot européen, et on ne sait pas laquelle correspond à quoi, ce qui est un peu difficile. Ouais, les noms, ils se ressemblent, mais ça n'a rien à voir les uns avec les autres. Du coup, on s'y perd un peu avec tout ce qui est européen. On est un peu perdu.
Vous savez si la Suisse a signé la Convention européenne des droits de l'homme ?
Je crois que oui. Je suis plus sûr, mais je crois.
Oui, je suis sûr que oui.
Oui, quand même, oui. Oui, c'est quand même assez important. Parce que ça assure qu'on a les mêmes droits entre tous les êtres humains.
Et la Constitution pour ça ?
Ça s'applique à la Suisse, alors qu'il faut voir plus grand pour que tout le monde ait les mêmes droits ailleurs qu'en Suisse.
Justement, actuellement, il y a des partis politiques, il y a des initiatives qui cherchent à remettre en cause ce qui est considéré comme une intrusion du droit étranger dans le droit national. Vous en avez entendu parler ?
Oui, j'en ai entendu parler, mais à nouveau, je n'y suis pas non plus vraiment intéressé. Enfin, pour moi, c'est essentiel qu'on respecte ces droits, on les a signés, il n'y a aucune raison valable de ne plus les respecter. Donc,
En disant qu'il y a une ingérence des juges étrangers dans le droit suisse, et pour qu'on en revienne à un droit autonome.
Non, je pense quand même que c'est important d'avoir une base, voilà, de droits de l'homme commune à tous, parce qu'au fond, enfin, nous sommes tous humains, même si nous vivons dans des pays différents, de couleurs différentes, on est tous humains, et donc au fond, nous avons fondamentalement les mêmes droits. Donc il y a une base qui doit être respectée, et puis après, la loi doit se faire respecter, ben, dans chaque pays. Même ici en Suisse, dans chaque canton a son propre tribunal. Mais il doit y avoir une base. Pour moi, c'est essentiel d'avoir une base commune à tout le monde.
Vous êtes étudiant ?
Oui, étudiant en informatique.
On est tous étudiants en informatique, là.
Première année de bachelor.
Toi, moi, nous avons tous des droits. Le
droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, à un procès équitable, à la protection contre la discrimination et contre les traitements inhumains, à la sphère privée, à la liberté de croyance et de conscience, au mariage et à la famille, à la liberté d'opinion et de réunion. Les droits humains nous protègent, mais qui protège les droits humains? C'est le rôle de la Cour européenne des droits de l'homme, Cour EDH. À Strasbourg, ce sont des juges de tous les États membres du Conseil de l'Europe qui sont à l'œuvre. Nous, la Suisse, y participons également. 47 pays en tout, de la Chypre jusqu'à la Finlande, de l'Islande à l'Azerbaïdjan. Tous se sont engagés à respecter la Convention européenne des droits de l'homme, CEDH, qui a vu le jour après la Seconde Guerre mondiale, à une époque où l'on souhaitait avant tout la paix. En Suisse, les droits humains sont ancrés dans la Constitution fédérale en tant que droits fondamentaux. C'est ce qui fonde notre société, notre pays. Cela étant, ces droits ne sont pas gravés dans le marbre, puisque la Constitution peut à tout moment être modifiée au gré des majorités lors de votations. Voilà pourquoi la Convention européenne des droits de l'homme est un facteur de protection si important pour nous.
Jean-François Perrin, qu'est-ce que vous en pensez de ce petit film fait par Dialogue Cour européenne des droits de l'homme, une association qui regroupe différentes ONG mobilisées sur cette thématique?
J'ai un certain nombre de critiques à émettre à l'encontre, non pas du tout ni de la notion, ni de la convention, ni du système global de la protection des droits humains, mais à l'encontre de certaines dérives. J'aime bien que dans le petit film en question, il est question de la démocratie et on dit que les pays se regroupent autour de l'idéal démocratique. Or, j'estime qu'il y a actuellement un véritable problème de compatibilité entre certaines décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et la notion de démocratie, plus globalement, la notion d'état de droit et surtout, en ce qui concerne la Suisse, les problèmes liés à la démocratie directe, mais pas seulement, à l'égard de la démocratie elle-même.
Alors, juste un mot, là, on se trouve toujours à une image au quatrième étage dans le département du droit civil. Et vous, vous êtes Jean-François Perrin, vous êtes professeur honoraire de droit. Pourquoi pour vous, il y a une disjonction entre ce qui se passe à Strasbourg et la démocratie helvète?
Il se trouve que la Cour de Strasbourg a émis un nombre important d'arrêts et elle se tient globalement à sa jurisprudence, mais cette jurisprudence évolue, c'est-à-dire que on en a rajouté à la sauce de la protection des droits de l'homme. C'est devenu une baudruche, c'est devenu un monstre juridique. Et j'estime en ce qui me concerne que la Suisse ne pouvait pas imaginer, au moment où la convention a été ratifiée, elle ne pouvait pas imaginer que cette ratification allait concrètement, dans les faits, entraîner des modifications ou des impacts aussi violents à l'encontre de principes fondamentaux de son ordre juridique. Je suis un enseignant de droit civil, je suis assez sensible à la majesté du code. Les civilistes ont ce point de commun avec les pasteurs que, au fond, ils aiment beaucoup leur code. Et certains arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme sont d'une nature à porter atteinte à certaines valeurs fondamentales qui sont ancrées dans ce code civil.
Vous parlez de remise en cause de principes fondamentaux du code civil. Vous pouvez donner des exemples, être précis?
L'arrêt dont j'ai à l'esprit, c'est celui qui concerne les problèmes de responsabilité consécutifs à l'utilisation de l'amiante dans les industries. Le code civil fixe des règles sur la durée après laquelle on ne peut plus intenter une action en justice contre une personne dont on prétend qu'elle est l'auteur du dommage. Vous voyez, il y a une prescription de l'action en responsabilité. On ne peut pas vivre en société sans de telles règles. Et d'ailleurs, la Cour européenne qui a condamné la Suisse dans cette affaire n'a pas dit quel devrait être ce délai. Simplement, elle a considéré que la mise en œuvre des dispositions du Code civil pour ce cas-là avait conduit à une solution inéquitable. Donc le tribunal fédéral applique le Code civil, n'est-ce pas ? Ce serait extraordinaire s'il ne le faisait pas. La question qui se pose, c'est de savoir si sur des questions de cette nature, qui ont trait à la pure et simple application du Code civil suisse actuellement en vigueur, est-ce qu'il est normal que la Cour européenne des droits de l'homme, qui ne peut pas ne pas savoir que le Parlement fédéral est, dans la Constitution démocratique de la République helvétique, l'organe qui est censé émettre les directives au nom du peuple et des cantons suisses, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il est normal que des décisions prises en application de ces textes, qui eux-mêmes sont indiscutables, est-ce qu'il est normal qu'une Cour européenne donne de telles leçons qui portent, au fond, sur la légitimité même de dispositions du Code civil qui sont adoptées en fonction de la Constitution ?
Justement, pour reprendre le cas de l'amiante, Jean-François Perrin, le délai de prescription est de 10 ans, à partir du moment où une personne a commencé à y être exposée. Or, on sait que les différentes maladies liées à l'amiante apparaissent plusieurs décennies après l'exposition. Alors, est-ce que ce cas n'est pas typiquement un exemple que la Cour européenne des droits de l'homme tire les États vers le haut ?
Oui, bien sûr, mais je prétends que le travail de fond doit être fait par les autorités constitutionnelles légitimes des pays dans lesquels les normes sont adoptées. Et cette condamnation par en haut a quelque chose qui me choque personnellement.
Mais prenons un autre exemple. Pour que la Suisse puisse ratifier la Convention européenne des droits de l'homme, elle a dû introduire le vote des femmes dans les années 70. Donc s'il n'y avait pas eu la Cour européenne des droits de l'homme, il n'y aurait pas eu à ce moment-là un changement de mentalité dans le droit et dans la législation helvète.
Oui, bien sûr. Disons, sur des cas de ce genre, il faut admettre, d'ailleurs, cette jurisprudence est généralement utile, et ça va de soi. Mais disons, c'est un problème de mesure et un problème de niveau. Le tribunal fédéral tout seul et indépendamment de l'intervention de la Cour européenne des droits de l'homme a accordé le droit de vote aux femmes du canton d'Appenzell-Rhône intérieur. Et il a eu le courage de le faire, et il l'a fait dans un arrêt que tout le monde salue et cite encore actuellement. Donc il y a quand même, en Suisse, il ne faut pas l'oublier non plus, n'est-ce pas ? On n'attend pas d'être condamné par Strasbourg pour faire évoluer les choses. L'arrêt en question montre qu'on a une jurisprudence qui est elle-même raisonnable sur le thème des droits de l'homme. On n'est pas dans une situation en Suisse où on attend systématiquement les leçons de Strasbourg pour changer ce qui doit l'être.
Même si, par exemple, un parti ou un groupe de citoyens venait à faire une initiative qui contredirait les principes de la Convention européenne des droits de l'homme, je ne sais pas, par exemple, qui validerait le retour de la torture en Suisse.
J'estime que le peuple et les cantons suisses sont souverains en Suisse et que le jour où le peuple et le canton suisse prendra une telle décision, cette décision devra être appliquée par les juges suisses.
Bonjour. Vous avez déjà distribué le
non.
Ah non, merci.
Alors, on est une association qui s'appelle Dialogue CEDH et qui œuvre à la... Ah ben j'en ai plus, donc il faudra vous le partager.
Ouais.
Pour promouvoir le rôle de la Cour européenne des droits de l'homme en Suisse, qui est sacrément remise en question avec toutes les initiatives contre l'immigration, le renvoi des criminels étrangers. Donc il y a tout un mouvement comme ça assez nocif, et il y a une initiative qui est en train d'être mise en place pour que la Suisse quitte la Cour européenne des droits de l'homme et que le droit national prime le droit international et toutes les conventions que la Suisse a ratifiées.
Putain, le truc de fou, quoi.
Absolument.
C'est grave.
Donc voilà.
Ok,
donc,
merci.
Voilà.
Merci.
jamais, pendant toute ma carrière académique, adhéré à aucun parti quelconque. J'estime que ma liberté de penser est incompatible avec l'alignement qu'on doit à un parti quand on adhère. Mais actuellement, je me trouve en état de devoir justifier certaines prises de position qui se trouvent être affectées par cette initiative de l'UDC. Et je suis heureux, non pas de l'existence de l'initiative, mais de l'occasion qu'elle va donner à tous les milieux qui sont concernés de faire le point sur cette question théorique extrêmement importante.
Oui, parce que pour être tout à fait clair par rapport à cette question, le principe d'autonomie, c'est quelque chose que vous défendez depuis très longtemps.
Vous avez tout à fait raison. Cette idéologie de l'autonomie, qui est un fait social absolument dominant à l'époque actuelle, mais c'est une valeur qu'on peut interpréter extrêmement positivement. C'est l'autonomie personnelle, c'est la liberté, c'est le droit d'assumer sa vie, de faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Mais cette autonomie, si elle a une valeur au niveau individuel, je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas une valeur au niveau collectif. Et il y a aussi une tendance sociale à promouvoir de plus en plus l'autonomie des organisations.
Alors à quel échelon il faut s'arrêter? Parce que on pourrait très bien dire, et puis ça a été longtemps le principe en Suisse, arrêtons-nous au niveau du canton. Il y a déjà des tribunaux cantonaux. Pourquoi aller plus haut? Pourquoi avoir créé un tribunal fédéral? Finalement, la création de la Cour européenne des droits de l'homme, elle s'inscrit dans la continuité de l'histoire suisse.
Bien sûr, tout dépend du niveau de l'autonomie et puis de la dimension de l'autonomie. C'est-à-dire que pour prendre le problème européen, l'Europe actuelle ne marche pas très bien. Je crois que tout le monde le voit et le lit.
En même temps, de quelle Europe on parle? Là aussi, il faut être précis, parce que c'est quoi? C'est l'Europe de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe?
Étant donné que l'Europe est en crise.
Mais quelle Europe?
L'Europe des communautés européennes actuelles. La grande Europe. L'Europe positive actuelle.
L'Union européenne.
L'Union européenne. Elle fait souci à bien des égards, cette Europe-là.
Oui, mais la Cour européenne des droits de l'homme, elle est reliée au Conseil de l'Europe, qui est une autre institution européenne.
Alors, disons, je ne vois pas pourquoi cette Europe serait une Europe centralisée par le haut. J'estime qu'en vertu du principe de l'autonomie des organisations, j'estime que nous sommes assez grands en tant que Suisse, pour gérer nous-mêmes le problème de la législation qui nous concerne.
Ce que vous dites de la Cour européenne des droits de l'homme, qui se situe à Strasbourg, qui est un organe supérieur au tribunal fédéral, c'est vrai aussi en ce qui concerne un tribunal cantonal vis-à-vis du tribunal fédéral. C'est qu'à un moment ou un autre, on peut se dire il y a la même guéguerre entre guillemets entre les juges. Un juge d'un tribunal cantonal n'a pas envie de se faire taper sur les doigts par un juge du tribunal fédéral. Comment savoir à quel échelon on se positionne?
La Suisse est un pays indépendant et neutre. C'est un pays souverain. Le bon échelon, c'est la Suisse. La Suisse n'a pas accepté l'adhésion à l'Europe. Elle a signé un certain nombre de conventions. Elle doit les respecter. Mais il y a un problème à partir du moment où l'interprétation de ces conventions fait dire à ces conventions des choses que la Suisse n'a pas vraiment voulu.
Je ne sais pas si vous avez le temps, ou sinon c'est simplement lire un peu, on essaie d'expliquer quel est le rôle de la Cour européenne des droits de l'homme, en quoi est-ce qu'elle a modifié aussi le droit et les droits de l'homme en Suisse, et sur son rôle à venir aussi. On essaie un peu d'informer aussi en vue de deux initiatives de l'IDC, je ne sais pas si...
C'est aussi important, ouais. Au niveau européen, etc., de savoir ce qui se passe en Suisse. On est quand même au centre, donc...
On est quand même dans le Conseil de l'Europe, même si on n'est pas dans l'Union Européenne, mais de savoir ce qui se passe en Suisse, ça peut avoir une influence après sur les autres pays.
Puis on est sur le devant de la scène avec toutes les initiatives, etc. Enfin, il y a les projecteurs sont braqués sur nous et l'Europe...
Après l'initiative sur l'interdiction des minarets en Italie, ça avait fait des partis de droite et c'était dit super, on fait la même chose.
J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on connaît maintenant de la Suisse. On connaît les initiatives de l'UDC, on connaît toutes ces votations, etc. Puis on se dit, mais la Suisse, c'est quoi ce pays qui est fait à tout moment ce genre de votation? Je pense que c'est totalement en contradiction aussi avec l'image que la Suisse essaie de se donner à l'étranger, aussi d'un point de vue diplomatique, c'est-à-dire le pays des grandes libertés, le pays du fondateur du CICR, puisqu'on est à Genève, hein. Et donc la tradition humanitaire de la Suisse, etc., c'est quand même pas tout à fait en ligne avec ça. Je pense que la Suisse devrait un peu plus se souvenir de cette tradition qu'elle revendique autant.
Vous savez ce que c'est que la Cour européenne des droits de l'homme ?
Oui, quand même.
Oui.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire la Convention des droits de l'homme dans ses grandes lignes, donc ses articles. Tout le monde est libre et égaux en droit, tout ce qui est fondamental, voilà.
Tout le monde a le droit à la sécurité, et voilà.
Des valeurs, je pense, des valeurs un peu presque traditionnelles, qui sont basiques et... Enfin,
mais c'est dur de les nommer.
Mais c'est le droit d'être humain, quoi. C'est ça, c'est le droit de naître libre, de prendre ses propres choix, de faire ses propres décisions, d'avoir son propre avis, d'être libre de les exprimer et de pouvoir réagir par rapport à tout ça. Le droit d'exister comme on veut exister.
Vacarme. C'est un chouette résumé à part ça. Le droit d'exister comme on veut exister. J'aime bien ça.
Infotrafic RTS.
On nous signale que des piétons sont en train de circuler sur la chaussée entre Morges-Est et Morges-Ouest en direction de Genève. Donc prudent si vous circulez sur l'axe Lausanne-Genève. On signale des piétons sur la chaussée entre Morges-Est et Morges-Ouest en direction de Genève.
Eh bien, c'est à vous maintenant de réagir à ce reportage de Christophe Kenny. (0) 58 236 236 0 pour nous dire si vous pensez comme Jean-François Perrin que la Suisse doit défendre sa souveraineté et retrouver son autonomie judiciaire en dénonçant la Convention européenne des droits de l'homme à laquelle elle a souscrit il y a environ un demi-siècle. Au contraire, est-ce que vous estimez, comme les jeunes militants du collectif Dialogue CEDH, qu'il faut rester membre à part entière du Conseil de l'Europe et qu'il faut considérer la Cour européenne des droits de l'homme comme un aiguillon et un garde-fou nécessaire pour la démocratie en Europe ? 058 236 236 0.
Vacarme, Véronique Marty, Marc Jouz, Stéphanie Coudray, Diane Dufaux, Christophe Canu, Rodolphe Beauchot.
Demain, nous rencontrerons un homme qui a été l'un des 300 juges de la Cour européenne des droits de l'homme entre 2007 et 2011, le magistrat tessinois Giorgio Malinverni.
Si je prends l'exemple des disparitions forcées en Tchétchénie au début des années 2000, les familles des victimes qui sont disparues, d'abord elles ont essayé d'obtenir réparation et justice au niveau interne, mais en vain, les tribunaux n'ont rien fait. Et donc finalement, désespoir de cause, la famille, les veuves ou les filles viennent à Strasbourg. Et là, c'est la première fois que finalement, il y a un tribunal sérieux qui examine les faits attentivement et qui conclut à une violation de l'article 2 qui consacre le droit à la vie. Donc c'est encore maintenant extrêmement utile pour énormément de pays.
À découvrir dès 13h demain sur la première, ce reportage intitulé « Dans la chambre du juge ». À 13h30, ses passagères ont filé rejoindre Émile Gast.
(1h32, très en retard.
Passagère, Émilie Gasque.
Salut. Est-ce que vous voyez vivre vieux ? Peut-on espérer une longue vie ? Vraiment ? Est-on sûr que la Terre tiendra ? Que l'humanité n'aura pas tout fait exploser ? Jeanne Chéral se pose quelques questions et offre des réflexions pour quand nous aurons 100 ans.
Quand nous aurons 100 ans et 100 jours et 100 nuits, que nos petits-enfants auront fait des petits, quand nos bras d'allumettes s'effriteront d'un coup, que le poids de nos têtes écrasera nos coups, que nous restera-t-il pour finir en beauté ? Quand nous aurons 100 ans et de beaux souvenirs, de nos corps s'aimantant comme deux gouttes de cire, quand la moitié caresse aura l'air d'un sans maître, et que ta vieille maîtresse aura perdu son maître, que nous restera-t-il pour finir en beauté? Quand nous aurons 100 ans dans nos cœurs de sauvages, dans nos yeux presque blancs, nos cheveux de passage, quand nos cils tomberont comme d'un arbre à hélice, que nos jambes n'auront jamais été si lisses, quand nous aurons 100 ans et la révolte sèche, que l'inertie des temps aura brisé nos flèches, quand la fatalité nous fera dire tant pis, et qu'un point de côté nous mettra au tapis, quand nous aurons 100 ans de regard en arrière, quand ce qui nous attend